France Inter.
Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre est une guerre mondiale.
Ce que vous venez d'entendre n'existe pas en réalité, car aussi fou que cela puisse paraître, aucun enregistrement de l'appel du 18 juin n'a été conservé. Le message lancé par le général de Gaulle depuis Londres a donc été récemment reconstitué grâce à l'intelligence artificielle.
C'est moi.
Ces IA, pour intelligence artificielle donc, prennent de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes. Ce sont elles, par exemple, qui décident des orientations universitaires de nos enfants, assurent la gestion de nos villes, notre sécurité dans les rues et d'autres pans entiers de nos vies, y compris intimes, qui représentent autant de marchés pour des PME dynamiques ou des mastodontes du web.
Enfin, ça constitue une mutation vraiment très très importante qui, à mon avis, est du même ordre de grandeur que les trois précédentes révolutions industrielles et par conséquent, je ne pense pas que ce terme de quatrième révolution industrielle soit usurpé.
Un sondage commandé par la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, montre que les Français sont loin d'être conquis par les algorithmes qui font vivre ces intelligences artificielles. 64% pensent qu'ils sont une menace car ils en savent trop sur nous, sur nos données personnelles qu'il est de plus en plus difficile de protéger.
On essaye de présenter les atouts de cette technologie et jusqu'où ça peut amener finalement tout un tas de bienfaits. Et on essaie de maîtriser les travers que ça peut aussi amener parce que, par nature, c'est un outil puissant, donc dangereux.
Avec le récent succès de ChatGPT, les défis éthiques sont de plus en plus pressants. Ce robot, qui répond à peu près à toutes nos questions, rédige des textes parfois truffés d'erreurs, ce qui peut encore un peu plus propager les fake news. Mais l'intelligence artificielle peut être aussi vertueuse. Des communes ont recours à elle pour assurer un certain nombre de services, de la gestion des espaces verts au trafic. Cette émission commence à Angers, qui arbore le label de territoire intelligent, autrement dit connecté. Ici, le déploiement de cette technologie a pour but de faire des économies d'énergie et donc des économies tout court. Les deux visages de l'intelligence artificielle, c'est un reportage de Mathieu Mondoloni avec Alexandra Bergel à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous voilà arrivés dans le jardin des plantes à côté des cygnes, des canards et des pigeons et en pleine végétation ici puisqu'il y a de très nombreux parcs et je crois que c'est avec vous que nous avons rendez-vous. Vous êtes ?
Bonjour, Jérôme Goulot, donc je suis chef de service à la direction des parcs et jardins de la ville d'Angers, d'Angers Métropole.
Si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'à Angers, il y a 176 arbres remarquables et 240 aujourd'hui arbres signaux. C'est quoi un arbre signal ?
Alors, un arbre signal, c'est un arbre majestueux qu'on a planté récemment de grande taille. On le plante déjà âgé. Et donc, du coup, on prend quelques risques, notamment pour sa reprise. Auquel cas, pour garantir, je dirais, la facilité et le suivi de cet arbre dans les premières années de sa vie, où il doit s'adapter à ce nouvel environnement urbain, on a mis en place un suivi hydrique avec des technologies modernes, telles qu'un kit de suivi agronomique qui
c'est
comprend...
Ce que vous avez dans les mains, là, c'est ça ?
Alors, c'est ce que vous
c'est
voyez
ce qui est par terre.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un ensemble qui comprend trois sondes,
ouais.
Trois sondes d'humidité, qui sont des sondes tensiométriques. Ces sondes sont situées au pied de l'arbre à des profondeurs différentes. Et ils vont nous renseigner en fait sur l'eau disponible dans le sol pour alimenter l'arbre au regard de ses besoins. Donc lui, il a une antenne de 4G qui lui permet de transmettre ses informations trois fois par jour à une application qu'on appelle nous superviseurs et donc voir, je dirais, les différences d'eau disponible aux différents espaces à proximité de l'arbre.
Ça vous permet aujourd'hui d'être plus efficace et si oui, en quoi ?
Alors, ce qui est très intéressant dans le cadre de pratiques que je viens de vous exposer, c'est qu'on connaît donc les besoins en eau de l'arbre. Et dans les premières années, en fait, on va aider l'arbre. Quand il n'a pas assez d'eau disponible dans le sol, on va lui apporter cette eau. Avant ces équipements-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on le faisait de manière systématique. Tous les arbres récemment plantés depuis qu'ils ont moins de 2 ans étaient arrosés en période estivale pour s'assurer qu'ils aient suffisamment d'eau.
Peut-être qu'on dépensait trop d'eau déjà, d'une part.
On dépensait trop d'eau. Parfois, on surarrosait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'eau disponible, mais on ne le savait pas, parce qu'en surface, on ne voit pas forcément l'eau disponible en souterrain. Et du coup, on pouvait même parfois pénaliser sa croissance, parce qu'un arbre qui est trop arrosé grandit moins vite. Et surtout, le déplacement, l'énergie carbonée pour ce déplacement et le temps de l'agent. Alors qu'aujourd'hui, on ne se déplace que sur les arbres qui ont un besoin. Donc chaque semaine, on fait une planification. On ne va arroser que les arbres pour lesquels on a mesuré un déficit hydrique.
Au revoir, merci beaucoup.
Là, on vient d'arriver à l'Hyperviseur, c'est le centre de contrôle et de pilotage de la métropole d'Angers. Et c'est ici que le signal émis par notre arbre de tout à l'heure arrive. On va pouvoir, en recevant ces données, calculer son taux d'humidité et éventuellement envoyer une équipe pour qu'elle aille s'occuper de cet arbre, l'arroser, l'entretenir, etc., etc. Ce sont des locaux provisoires dans lesquels sont installées pour l'instant 3 personnes. À terme, il y en aura beaucoup plus avec des opérateurs de la ville qui vont être chargés de faire fonctionner cet hyperviseur, ce centre de pilotage. Quelqu'un va venir nous chercher. Le hall, il est... désert.
Hop. Bonjour.
Guillaume Sébron, je suis le responsable du centre de pilotage au niveau du projet Territoire Intelligent.
Hop.
Donc là, nous sommes dans une salle, je vais la décrire, il y a 3 grands écrans qui sont collés au mur, sur lesquels on voit différentes choses, et notamment une carte de ce qui est, j'imagine, la métropole d'Angers.
C'est ça, c'est fait.
Vous pouvez me montrer, c'est
bien
possible
sûr, ouais, c'est
ouais.
Fait.
Tac. Donc là, par exemple, vous avez sur la carte, en fait, des petits pictogrammes, voilà, merci, qui sont associés en fonction du taux d'humidité pour chacun des 177 arbres qui sont suivis par un jeu de couleurs. Tout simplement, on s'aperçoit qu'on les classe par taux d'humidité. Derrière, en fait, ce taux d'humidité-là est une des données que l'on calcule en temps réel, d'accord. Donc, si par exemple je clique sur cet arbre-là, vous voyez que donc nous sommes sur un taux d'humidité de 92,1%. Et en fait, derrière, si je reviens sur la carte, tout simplement, en fait, derrière, ça se traduit par des consignes d'arrosage. En fait, ces consignes d'arrosage, ça va être justement là où on va coupler le savoir-faire du jardinier avec l'ensemble de l'analyse de ces données-là pour justement pouvoir faciliter son travail au quotidien.
L'analyse par l'intelligence artificielle.
Exactement, exactement. Donc là, au niveau de l'hyperviseur, qui est l'outil en fait du centre de pilotage, que je vais vous mettre tout de suite à l'écran. Tac.
À Angers, l'intelligence artificielle ne sert pas qu'aux espaces verts. Elle permet de gérer aussi de nombreux autres secteurs, et ce n'est que le début.
Sur la cartographie, vous voyez sur l'ensemble des 29 communes, on a pour le moment intégré 6 thématiques au global du marché qui en comporte 9. À savoir que dans la partie trafic, on a intégré la partie feu tricolore et l'ensemble de la partie stationnement. L'ensemble de l'éclairage, l'ensemble des bâtiments, cette fois qui est une compétence ville d'Angers. L'ensemble des espaces verts et l'ensemble des déchets.
Tout ça est géré aussi par l'intelligence artificielle, avec les humains, de façon à améliorer un ensemble de gestion de choses qui relèvent de la collectivité.
C'est ça. En fait, l'intelligence artificielle va vraiment être dans la puissance de calcul, qui va vraiment être une aide à la décision pour l'ensemble des acteurs du centre de pilotage. On vient vraiment en fait en complémentarité avec la capacité et la technicité des équipes, et on leur astreint en fait un pouvoir de calcul ou un pouvoir d'analyse supplémentaire avec l'intelligence artificielle, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus proactifs, d'être beaucoup plus performants. Néanmoins, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais l'humain reste quand même au cœur du dispositif, c'est vraiment primordial.
Constance Nébulin, je suis vice-présidente d'Angelor Métropole, en charge du territoire intelligent, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je suis aussi conseillère municipale déléguée de la ville d'Angers, en charge de la transition numérique. Et quand j'ai encore un peu de temps, je suis vice-présidente de la région, en charge du numérique. On a notre propre modèle de territoire intelligent qui, je le crois, est un vrai accélérateur de la transition écologique en se basant, si on le fait en très résumé, sur l'innovation, le numérique, mais aussi l'intelligence humaine. Parce que comme vous l'avez vu au centre de pilotage, ok, on a des données, ok, on a des superviseurs, on a des logiciels, on a des outils numériques, on a des capteurs, mais s'il n'y a pas les humains derrière pour traiter la donnée, l'analyser, prendre les décisions, etc., il n'y a pas de territoire intelligent.
Quel est le budget consacré à ce développement d'un territoire intelligent ?
Pour ce contrat-là, on a un budget de 178 millions d'euros sur 12 ans. On a des objectifs chiffrés avec notre partenaire et ils ont pour but d'atteindre ces objectifs. S'ils ne les atteignent pas, ils ont des pénalités financières.
C'est quoi justement les objectifs avec le déploiement de ce territoire intelligent en 12 ans ?
Par exemple, sur l'éclairage public, Engie nous promet la réduction de 70% de la puissance lumineuse et de faire des économies d'énergie d'environ 66%. Ça, c'est quelque chose qui est promis dans le cadre du marché. On doit pouvoir faire 20% d'économies sur la gestion des fluides dans les bâtiments, donc eau, gaz, électricité. On doit faire 20% d'économies d'eau dans la gestion de l'arrosage des parcs et jardins. On doit fluidifier de 10% le trafic des bennes à ordures ménagères qui viennent collecter les déchets dans les points d'apport volontaires, etc., etc. Et en fait, tout le marché est construit comme ça. À chaque thématique, on a un objectif chiffré de réduction qui doit être atteint.
Est-ce que vous avez chiffré les économies en euros ? C'est-à-dire que tout ça, la baisse de la facture énergétique, la baisse de la consommation de l'eau, parce que je crois que le chiffre que vous donniez, arrêtez-moi si je me trompe, c'était 100 millions sur 25 ans,
oui,
hein, c'est
ça ? Oui, exactement, 100 millions sur 25 ans. Le chiffre que je donnais il y a 3 ans, je ne peux plus le dire aujourd'hui, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on a bien fait de se lancer il y a 3 ans, bien avant finalement la hausse des tarifs et la crise énergétique, etc., puisque plus on avance dans le territoire intelligent, plus on va faire des économies, étant donné que les tarifs n'ont pour l'instant pas tendance à baisser, ils vont plutôt continuer à augmenter. Dès cette année, on fait de mémoire 100 000 euros d'économies sur la facture, alors qu'on est voilà, encore au début du déploiement, ne serait-ce que sur l'éclairage public.
On a vu que pour l'instant, il y a des choses qui sont déjà déployées. Il y en a d'autres que vous prévoyez de déployer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Je crois qu'il y a du prédictif, notamment, que vous aimeriez mettre en place en ce qui concerne le stationnement.
Oui, moi, l'exemple du stationnement m'intéresse pas mal. Demain, on va pouvoir, avec les données, prédire quels sont les moments, les zones où il y a le plus de potentiel de trouver une place disponible et donc potentiellement indiquer aux gens quel est le meilleur moment pour s'y rendre s'ils veulent éviter de tourner des heures, ou à contrario de se dire « bon, bah, là, il n'y a pas de place et il n'y en aura pas, je privilégie le vélo, les transports en commun ou autre ». Et même si, par exemple, on ne l'utilise pas vers le grand public, c'est assez intéressant pour nous en termes de statistiques. Et puis, si vous constatez que sur une zone, il n'y a absolument pas d'utilisation de la voiture du fait de ces données-là, bah vous n'allez pas refaire une zone avec plein de stationnements, voire, etc. La donnée, c'est vraiment aussi très intéressant comme outil de travail pour nous.
L'intelligence artificielle a déjà massivement investi le marché de la sécurité, de la surveillance vidéo. Elle est entrée dans nos foyers avec les assistants vocaux.
Je suis là.
Et elle vise désormais à maîtriser ce qu'il y a de plus humain en nous, la conversation, l'échange ou comment parler à quelqu'un qui n'existe pas.
Bonjour, je suis l'assistant virtuel de la collecte de la donnée. Avant de commencer, merci de valider que vous m'autorisez à traiter votre voix et les informations que vous allez me communiquer.
Oui, oui, je suis d'accord.
Je vous remercie d'accepter de bien vouloir discuter un peu avec moi. Je travaille 24 heures sur 24.
Mathieu Mondoloni et Alexandra Bergel sont dans les locaux de la société Talker à Levallois, en région parisienne.
Vous travaillez beaucoup, vous ?
Je travaille tous les jours, du lundi au vendredi, sans m'arrêter.
Quel plaisir de pouvoir échanger avec vous. Dites donc, c'est comme si nous discutions entre amis.
Bonjour, Katia Lenné, je suis cofondatrice et CEO de Talker. Moi, je m'occupe de la partie business development, gestion de projet.
Pascal Lenné, cofondateur de Talker, et je suis plutôt en charge de la partie technique, donc de l'intelligence des robots.
Les assistants virtuels que Talker fabrique, ce sont des assistants virtuels adressés aux entreprises. Donc nous, on va mettre à disposition des entreprises la possibilité d'avoir des assistants qui vont aider leurs équipes dans un domaine précis, par exemple la relation client, les ressources humaines, pour mieux gérer les interactions avec les utilisateurs. Sur le site internet, c'est en mode chat. Et sur le canal téléphonique, et c'est là où effectivement Talker a une spécialité et une innovation, c'est de pouvoir gérer aussi le canal téléphonique. Parce qu'en France et dans d'autres pays d'Europe, 50% des interactions avec une entreprise se passent au téléphone, donc les personnes appellent. Donc avec les assistants virtuels au téléphone, qui sont, on les appelle callbots, lorsque vous appelez, tout de suite vous exprimez votre besoin et tout de suite le robot, c'est ça l'intelligence, de pouvoir vous comprendre, et vous n'allez pas passer tout ce chemin-là de parcours pour savoir ce que vous demandez. On peut aussi émettre des assistants qui vont informer, incarner l'entreprise ou l'organisation ou l'établissement de santé pour pouvoir donner l'information et...
C'est-à-dire rappeler, en fait.
Il rappelle.
Est-ce que vous avez, je sais pas, là, un téléphone, on pourrait...
Oui, on peut appeler.
On peut essayer d'en appeler un pour voir.
J'ai des démonstrations, je vais montrer plusieurs démonstrations, comme ça on va voir différents environnements. Je fais une démo pour une mairie, enfin je regarde en fait, pompier intervention. C'est vraiment de la démonstration, hein. Là c'est pas du tout la production. Pompier intervention, je vais voir ce que c'est. On va l'écouter, on va voir. Il dure 50 secondes aussi.
Bonjour, je suis l'agent virtuel du service départemental d'incendie et de secours de la région Rhône-Alpes. Quel type de sinistre souhaitez-vous déclarer ?
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler parce qu'il y a un incendie sur l'autoroute et il faudrait venir le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez envoyer un camion ?
Très bien, votre appel a été pris en compte. J'ai juste besoin de précision. Merci de me communiquer la commune du sinistre.
Cousin Mandeur.
Une personne est-elle en danger immédiat ?
Oui, absolument.
Votre appel a bien été pris en compte. Un appelant va vous contacter au plus vite. Merci de nous avoir informés. Au revoir.
Oui, au revoir.
Parce que ce qui impressionne toujours les gens et les humains qui traitent avec des IA comme ChatGPT ou peut-être avec la vôtre, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on a l'impression qu'on y cherche un peu de l'humanité. Là, c'est de la science-fiction, d'après vous, ou effectivement...
Non. Je pense pas que c'est de la science-fiction aujourd'hui, en fait. Dans les 5 ans à venir, je pense qu'il y aura une vraie révolution qui va bouleverser le monde du travail, il faut pas se leurrer. Plein de métiers vont être voués à changer, puisqu'en fait, une partie va être automatisée. D'un côté, vous avez l'intelligence artificielle qui va permettre de comprendre les informations, et de l'autre côté, ça va être automatisé. Donc les deux ensemble, forcément, sont voués à évoluer, et on doit apprendre à vivre tous ensemble, en fait.
Oui.
Moi, j'insulte pas les robots, en fait, bah, par non, principe. Non. Parce que je travaille dedans, en fait, et je les respecte. Mais je pars du principe que dans le futur, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. On ne sait pas où sont les données aujourd'hui. Et donc, il vaut mieux pas les insulter, à mon avis. Parce qu'ils vont se souvenir de nous. Voilà, super. Donc là, on va s'amuser.
Je transfère l'appel vers votre bot ID.
Ouais.
Bonjour, je suis Daily. Ouais, je vous écoute.
Alors, je me sens un peu seul. Est-ce que tu peux discuter avec moi, s'il te plaît ?
Point d'interrogation. Bien sûr. Je serai heureux de discuter avec toi.
Est-ce que tu veux parler d'un sujet précis ?
J'aimerais bien parler de musique classique.
Ah.
Mais vous aimez quoi comme musique ?
Moi, j'écoute plutôt beaucoup de techno.
Chacun ses goûts.
Exactement.
Il y a un domaine où l'IA est déjà très présente, c'est le domaine de la sécurité. Au fait, ChatGPT, c'est quoi une caméra intelligente ?
Une caméra intelligente est un dispositif de surveillance équipé de technologies, de reconnaissance, de la vision et de l'apprentissage automatique. Elle peut détecter des mouvements, reconnaître les visages et effectuer des tâches telles que la détection d'intrusions ou la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Ces caméras peuvent être connectées à Internet et généralement contrôlées à distance via une application mobile.
Parmi les entreprises en pointe dans le domaine des caméras intelligentes ou de ce qu'on appelle plus généralement la vision par ordinateur, on trouve 22. C'est une entreprise basée à Puteaux, en région parisienne, où nous avons rendez-vous avec son fondateur. Bonjour William Eldin.
Bonjour, enchanté, merci d'être venu.
Merci à vous de nous accueillir. Donc là, on est dans une salle de démonstration, je vais juste la décrire pour les auditeurs. Il y a des grands écrans de télévision, des écrans d'ordinateur et des caméras intelligentes, on peut dire ça comme ça, qui sont fixées au plafond, qui permettent de faire des démonstrations de ce que fait en fait 22. Comment on dit ça ? De la visio...
De la vision par ordinateur.
De la vision par ordinateur. Et ici, on voit d'ailleurs devant nous qu'il y a une petite vidéo qui tourne en boucle et qui montre une rue de Paris, j'imagine, ou côté de Paris, avec un feu rouge et des automobilistes de roues et cyclistes qui le grillent en permanence. J'imagine que c'était une façon de pouvoir montrer qu'on peut détecter ceux qui contreviennent aux règles du code de la route, c'est ça ?
Exactement. C'est même en amont, ça. C'est-à-dire que c'est pour constituer une base de données de véhicules qui
franchissent les feux au rouge, de manière à mieux apprendre aux IA à reconnaître ce que c'est qu'un véhicule qui passe au rouge.
Est-ce qu'il y a d'autres démonstrations que vous pouvez nous faire d'utilisation justement de ces caméras intelligentes ?
Évidemment, on va chercher soit des détections qui sont déjà toutes faites pour nos clients, comme absence d'arrêt au feu rouge, bagage immobile, un dépôt sauvage d'ordures et de déchets, de la détection d'incendie aussi, des feux de poubelle, des feux de voiture, du franchissement de voies de ferré, parce qu'il y avait des accidents sur les tramways, etc. De la jauge limite de fréquentation, véhicule ou humain, attention, si dans cette rue il y a plus que 18 voitures, c'est que c'est bloqué, alerte en temps réel pour voir ce qui s'y passe. De la présence prolongée humaine aussi, devant une gare, il y a quelqu'un qui tourne depuis 2 heures autour des gens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, je le regarde, ça m'appelle. On essaye de présenter les atouts de cette technologie et jusqu'où ça peut amener finalement tout un tas de bienfaits, et on essaie de maîtriser les travers que ça peut aussi amener, parce que par nature c'est un outil puissant, donc dangereux.
Et est-ce qu'il y a déjà des collectivités ou des entreprises qui ont pu avoir des demandes que vous avez jugées non éthiques ?
Oui, oui, ça arrive même régulièrement qu'il y a des choses non éthiques qu'on refuse. L'exemple qu'on utilise tout le temps, c'est celui de la détection des caravanes. On en a eu beaucoup comme nouvelle catégorie d'objets à ajouter dans le produit ville. Et on a toujours refusé en comité éthique d'ajouter la catégorie caravane, sauf à des fins statistiques en fin de journée et donc pas en temps réel. Parce qu'on sait très bien que ça peut être pour viser une communauté et pour pouvoir la stopper dans son action en temps réel. Et ça, on ne veut pas s'immiscer dans ces choses-là. Les personnes au sol, c'est pareil. 22 ne sait pas détecter les personnes au sol et par volonté. On sait détecter les gens qui sont en train de chuter, mais pas qui sont déjà au sol, parce que la finalité détecter les sans-domicile fixe n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire.
C'est quoi justement en fait le futur des caméras intelligentes hors sécurité, hors surveillance ?
Dans la restauration, moi je passe mon temps à attendre ma carafe d'eau, mon pain, ou quand mon verre est à moitié plein, y a personne qui est alerté pour venir me resservir. Donc imaginez dans un restaurant des caméras au plafond, une IA qui a appris les verres vides, les verres pleins, les verres à moitié pleins, et dans un bar, qui lui dit en temps réel quel verre à quel endroit arrive à 25% et va le recharger vite parce qu'il va pas être content le client.
29 mars 2018.
Et donc vous l'avez compris, je souhaite que la France soit l'un des leaders,
Emmanuel Macron,
de cette intelligence artificielle. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. D'abord parce que je pense que c'est bon pour notre pays. Ensuite parce que je pense que ça crée des opportunités. Enfin, parce que je pense qu'il n'y a aucune chance de prétendre en contrôler les effets ou avoir son mot à dire sur tel ou tel effet pervers si on a raté la bataille du début, c'est-à-dire d'être un acteur de cette aventure.
Le déploiement de ces caméras intelligentes et de cette intelligence artificielle, ces yeux désormais qui nous observent un peu partout dans le pays, ce n'est pas sans poser des questions d'éthique notamment. Ça inquiète la Quadrature du Net, c'est une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. On a rendez-vous justement avec un des juristes bénévoles, il s'appelle Martin Drago et il nous attend dans ce café.
Le marché de la sécurité, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, c'était celui de la vidéosurveillance. Donc vendre des caméras en disant que ça va aider à la sécurité. Et donc depuis 10 ans, avec un bon lobby qui s'est fait, on a eu le gouvernement qui a financé l'installation de caméras dans l'espace public. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu tellement de caméras que les humains derrière ne suffisent plus. On a eu pas mal de recherches et d'articles qui ont été faits, c'est-à-dire que les humains n'arrivent pas à voir, et on peut pas avoir un humain tout le temps derrière la caméra qui repère tous les comportements. Et du coup, on a des entreprises qui arrivent aujourd'hui en disant, en fait, comment résoudre ce problème ? Eh bien, on va mettre des algorithmes en faisant de la vidéo protection intelligente. Et là, je mets des guillemets, c'est bien le terme qu'ils utilisent. Eux disent que c'est une vidéo qui protège, mais qui en plus est intelligente, comme s'il y avait finalement une espèce de truc un peu divin derrière pour nous aider. Alors non, nous, on refuse ce terme à la Quadrature du Net. On parle de vidéosurveillance algorithmique. Tout ça, c'est des algorithmes qui sont mis en place par des entreprises, avec derrière des humains qui définissent les critères de ces algorithmes, qui définissent qu'est-ce que ces algorithmes vont rechercher.
Il y a aussi des biais qui existent, c'est-à-dire qu'un algorithme ou une intelligence artificielle n'a finalement d'intelligence que celle des gens qui la programment. On a vu aux États-Unis notamment qu'il s'est passé plusieurs choses. Récemment, je crois au mois de novembre, il y a un homme noir qui a été arrêté parce qu'une intelligence artificielle a dit aux policiers « Attention, c'est un suspect », alors qu'en fait, c'était pas du tout le suspect et c'était pas du tout la bonne personne. Il a quand même passé, je crois, quelques jours en prison en garde à vue avant d'être relâché et avec les excuses de la police. Donc ça pose quand même des grosses questions. Est-ce qu'on peut craindre ça aujourd'hui aussi chez nous en France ?
Effectivement, les gens qui créent ces algorithmes, bah, en fait, s'ils sont racistes, et bah, l'algorithme derrière va être raciste. Après, nous, là où on veut faire très attention sur notamment les biais racistes des algorithmes, c'est qu'on s'attaque un peu finalement à une conséquence du problème, un danger, mais que derrière, nous, on a vu les entreprises qui nous disent « Ah, c'est vrai, aujourd'hui, ma reconnaissance faciale, elle est raciste, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, il faut que je l'entraîne encore plus, ou alors il faut que j'achète des bases de données, d'images, de personnes qui viennent de pays d'Afrique ou je sais pas quoi, pour justement que mon algorithme soit pas raciste. » Donc ça a une tendance à pouvoir justifier une amélioration de l'algorithme. Et nous, on aime bien revenir à la base, c'est-à-dire de dire « Pourquoi on veut cet algorithme ?»
Donc vous, votre point de vue, c'est quoi ? C'est il faudrait l'arrêter ou il faudrait mieux l'accompagner ?
Non, je pense que nous, le point de vue, il est clair, c'est l'arrêt, parce qu'en fait, on est exactement dans ce qu'on vous dit de déterminisme technologique. Hein. C'est-à-dire que le progrès, il est là, l'intelligence artificielle est là, et donc on doit l'utiliser. Et nous, ce qu'on dit, c'est que maintenant, en fait, en tant que société, on doit pouvoir dire à un moment stop à certaines technologies. On a des villes aux États-Unis qui ont dit stop à la reconnaissance faciale. On en a aussi qui commencent à dire stop à la vidéosurveillance automatisée tout court. En fait, cette technologie, elle est trop dangereuse. On remet un peu le génie dans la boîte, hein, d'une certaine façon. Et là, on doit s'arrêter. Aujourd'hui, on a déjà des drones, on a la vidéosurveillance algorithmique. Demain, on commence à parler de reconnaissance faciale de masse dans la rue. On commence à voir des entreprises qui commencent à proposer des choses un peu spéciales sur des drones qui peuvent aussi lancer des gouttes de peinture sur certains manifestants. Donc au bout d'un moment, en fait, non, il faut arriver à dire non à une technologie, à la refuser, bah, parce qu'on a un autre projet politique. Si je sais que je suis surveillé dans la rue par des algorithmes, est-ce que je vais vouloir aller manifester ? Bah, peut-être que certains oui, mais peut-être que certains vont avoir un peu plus peur, et donc ça va limiter la liberté d'expression.
En ce moment, il y a des projets de loi qui sont examinés, notamment en prévision des JO de Paris 2024. Ils vont pas du tout dans le sens de ce que vous demandez, si je me trompe pas.
Malheureusement, c'est vrai que aujourd'hui, on a une loi sur les Jeux Olympiques. Et cette loi sur les Jeux Olympiques, elle veut permettre aux industriels et aux gouvernements d'expérimenter, de tester la vidéosurveillance algorithmique dans l'espace public. Hyper intéressant, c'est de voir que cette loi, elle s'appelle Jeux Olympiques, mais que l'article 7 qui concerne la sécurité, en fait, il est extrêmement large. Il concerne toute manifestation culturelle ou récréative jusqu'en 2025. C'est pas du tout que les Jeux Olympiques. Et cette loi, nous, on la voit vraiment comme ça. C'est un peu l'effet cliquet sécuritaire, c'est-à-dire, ça y est, c'est bon, on y est. C'est plus de manière opaque comme ça a été fait jusqu'alors, mais ça va être officiellement, avec des décrets, la mise en place d'une algorithmisation de l'espace public.
Et donc, je ferai tout pour que nous réussissions, pour qu'on pense l'intelligence artificielle, ses conséquences, sa place dans la société, parce que ce sera le meilleur moyen de réfléchir ensemble à la société que nous voulons construire.
On a vu tous les défis qui se posaient à nous avec l'intelligence artificielle, notamment les défis éthiques. Aujourd'hui, il y a une vraie question, c'est ce que représentera l'intelligence artificielle demain, notamment dans un domaine qui est un enjeu essentiel aujourd'hui, celui de la santé. Un tiers des données numériques mondiales sont des données de santé personnelle. Il y a un professeur à Paris qui travaille sur cette question des données de santé. Il s'appelle le professeur Xavier Jouven et il a fondé le Centre d'expertise de la mort subite. Avec ses équipes, ils essayent tout simplement de prédire la mort.
Ah ben voilà. Bonjour.
Bonjour.
Depuis 30 ans, je travaille sur essayer de prédire qui va faire une mort subite. En fait, c'est ici, voilà, le centre d'expertise de la mort subite est là. Vous avez ici, donc c'est la tour de contrôle des arrêts cardiaques sur Paris et Petite Couronne. Alors la mort subite, c'est un décès brutal qui survient dans l'heure qui suit l'apparition des symptômes, sans qu'il y ait une cause externe évidente. Alors il faut bien différencier la mort subite de l'adulte, de la mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson, il y en a environ 400 par an en France. La mort subite de l'adulte, c'est 40 000. La mort subite du nourrisson, c'est des causes très précises qui sont différentes de la mort subite de l'adulte.
Donc on sait, voilà, jour après jour, combien il y a d'arrêts cardiaques sur Paris Petite Couronne. Donc on a l'observatoire, donc on a toutes les sorties pompiers, toutes les sorties SAMU. Et donc, on voit, on suit les évolutions, le taux de massage. Donc,
vous avez toutes les données.
Et on collecte les interventions des pompiers et des SAMU, les fiches, on récupère les comptes rendus d'hospitalisation en réanimation, en cardiologie, on suit les survivants. Et on a les données de la sécurité sociale.
Pour les donner à l'intelligence artificielle, voilà, et qu'elle puisse travailler.
Exactement.
En fait, elle fait partie de votre équipe, cette IA.
Oui, c'est vrai. C'est un outil. On l'utilise comme un outil, mais comme on utilise d'autres outils.
C'est tellement injuste que quelqu'un qui était en bonne santé s'écroule, il est vivant le matin, il est mort le soir. Et c'est pour ça que j'ai fondé le Centre d'expertise de la mort subite en 2010. Mon but était d'essayer de la prédire. Et donc, on a demandé, et c'était le début, à la Caisse nationale d'assurance maladie, l'autorisation de pouvoir récupérer les données pour avoir des données avant la survenue de la mort subite. Donc, avoir toute la verticalité après et avant.
Alors, savoir en gros quel était le passif des patients, quoi. Comment ils se comportaient, quels étaient leurs mots, graves ou pas graves,
voilà,
tout leur suivi.
Leur mot MAUX, voilà. Et au total, on a 320 000 individus.
Il a fallu d'abord 3 ans pour ranger, classer, nettoyer les fichiers, les mettre ensemble, les chaîner. Et ça, c'est comment rendre des données non structurées, analysables par l'intelligence artificielle. Et en ayant ça, on a refait tourner à ce moment-là l'intelligence artificielle. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a pu découvrir quelque chose de vraiment magnifique, qui est la photographie, c'est la première fois qu'on a ça, de tous les arrêts cardiaques, avec des groupes homogènes de patients, tels que c'est pris par l'intelligence artificielle. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Ça va nous permettre de faire un bond en avant de manière très très importante.
Et donc là, concrètement, en fait, ça veut dire que sur ces groupes de patients, on peut dire attention, celui-ci, celle-là, peut dans les mois, années à venir, être victime d'une mort subite.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, maintenant, grâce aux données de santé, on est capable d'identifier qui a plus de 90% de risque de faire une mort subite dans l'année. C'est génial. Avant que les gens aient fait un arrêt cardiaque, on pourrait identifier ceux qui sont très à risque et éventuellement modifier leur facteur de risque de manière à éviter l'arrêt cardiaque.
On parle là de prédire la mort subite. Est-ce que vous pensez, en l'état de vos connaissances, à la fois en tant que cardiologue, mais aussi que spécialiste qui travaille depuis plus de 10 ans sur les questions d'intelligence artificielle et de données de santé, qu'un jour on pourra prédire la mort tout court ?
Si votre question c'est est-ce qu'on pourrait l'étendre à d'autres domaines que la mort subite, je pense que oui. Et ça va être justement l'objet de cette très belle compétition internationale qui va venir et dans laquelle la France, quand même, je trouve, est très bien placée.
Avec le développement des algorithmes et des intelligences artificielles, les spécialistes s'inquiètent de la place qu'ils prennent dans nos vies et dans nos sociétés. C'est le cas de Benoît Rotembourg, mathématicien à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Il est à la tête du projet Regalia, lancé il y a 3 ans, qui entend s'assurer que ces algorithmes se comportent de manière loyale vis-à-vis des citoyens et des entreprises. En gros, réguler ces algorithmes à l'aide d'autres algorithmes.
On va être très précis. On a tous un adolescent à la maison, je vous regarde, ou soi-même on a un petit côté adolescent chez soi. Qu'est-ce qui se passe ? 1 heure par jour sur TikTok, en moyenne, hein, ou 1 heure sur Tinder pour les plus grands adolescents. Qu'est-ce qu'on fait ? On interagit, nous humains, avec un algorithme fabriqué par 10-15 entreprises dans le monde, américaines ou chinoises hein, en général, et on dialogue en faisant un swipe, en faisant un match, un scroll, un like, hein, c'est ce qui se passe. Si vous faites le calcul, ça fait 500 fois par jour, vous émettez un signal en face d'un algorithme qui récolte ce signal et vous émet un message et vous re-envoyez un signal. On est donc en milliards de choses par jour. Il y a à peu près 2 milliards d'humains qui touchent ces machines, ces algos. Et donc, il y a 2 milliards d'humains qui racontent leur vie à 15 entreprises. Dans l'histoire du capitalisme, c'est pas mal, hein. Ça se traduit, in fine, par des achats de choses, hein. On va acheter quelque chose qui nous a été un petit peu recommandé par l'algorithme. Ça se traduit par des vraies choses de notre vraie vie. Sinon, il n'y aurait pas de modèle économique pour ces plateformes. Hein. Donc, si ça respectait la loi, ça irait encore. Le problème, c'est que de plus en plus, la puissance de ces algorithmes ne respecte plus la loi.
Est-ce que là, il n'y a pas déjà des défis éthiques, en fait, qui nécessitent vraiment d'encadrer, peut-être de légiférer un certain nombre de choses dès maintenant?
Alors, déjà, il y a une législation qui existe quand même, hein. Ils ne peuvent pas tout faire. Mais oui, je vais vous donner un exemple très simple. C'est une néobanque qui nous a appelés. Cette néobanque, vous prenez un petit selfie, vous avez envoyé votre carte d'identité, votre photo de carte d'identité, et vous prenez un petit selfie pour accéder à certains services. Et donc, il y a un petit algorithme qui fait le matching entre le selfie et la carte d'identité et qui accorde ou refuse l'accès au service. À votre avis, comment un algorithme comme ça peut être biaisé? C'est la qualité de l'appareil photo de la personne qui prend le selfie. Quand vous avez un vieil appareil, la qualité est tellement pauvre, bon, eh bien, quand c'est flou, c'est moins reconnaissable. Donc, si vous ne faites pas attention, votre néobanque, elle va discriminer les pauvres. C'est-à-dire, une personne qui a un vieil appareil sera moins bien reconnue et donc accédera de manière moins confortable au service qu'une personne qui a le dernier iPhone.
Je suis là. Ah, est-ce que je peux vous aider pour autre chose?
La vitesse à laquelle cette technologie se développe est ébouriffante. Alors à quoi doit-on s'attendre dans le futur? Mathieu Mondoloni et Alexandra Bergel ont tenté de le savoir auprès de l'un des géants du web, Meta. C'est la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp. Le groupe a donc sous la main un nombre incalculable de données. Ils ont rendez-vous dans un bâtiment parisien du groupe. Sur l'immeuble, aucune indication avec le nom de Meta. Pour s'enregistrer comme visiteur, on leur a donné un code d'activation caduque dès qu'il est utilisé.
Alors, donc il y a des petites tablettes qui vont nous permettre de nous identifier et de taper le code que nous avons reçu.
France Inter.
C'est bon, je suis enregistré a priori, non?
Interception.
Faut que je le remette? Next.
Ici, il y a une centaine de chercheurs, dont certains appartiennent au CNRS, et tous phosphore pour dessiner notre futur.
C'est bon.
Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse le notebook ou le...
Notebook, ouais, notebook.
Et du coup, j'ai une story qui va être dans le test, une story qui va être dans le train.
Oui.
Get weights, ça me renvoie les bêta coef de la Ridge.
Oui. Qui sont du coup dénormalisés par le scaler ou pas?
Dans ma PLS, j'ai un normalizer.
D'accord.
On est dans une salle chez Meta où on se connecte en visio avec Joëlle Pinault, qui n'est pas là parce qu'elle est basée à Montréal, et donc elle nous répond de là-bas, évidemment. C'est beau la technologie, ça nous permet d'être en direct avec elle à Montréal, où il est 9h du matin. Bonjour.
Bonjour Joël, désolée pour ces petits soucis techniques. Tu nous entends bien?
Je vous entends, je ne vous vois pas très bien. Ce que je vois, c'est l'interface de WorkChat.
Je vais commencer par vous demander de vous présenter, peut-être pour les auditeurs.
Oui, Joëlle Pinault, je suis basée à Montréal, je suis directrice du labo d'intelligence artificielle, en particulier de l'équipe de recherche chez Meta.
Évidemment, les données sont essentielles parce que c'est celles qui vont servir à entraîner les intelligences artificielles et les algorithmes pour leur permettre de progresser aussi. Justement, vous, comment vous recueillez ces données? Quelles précautions vous prenez? Comment vous les sélectionnez?
Une bonne partie de nos données sont des jeux de données publiques, donc en open source, qui sont utilisés et recensés par la communauté de recherche à l'international. C'est des jeux de données bien connus dans la littérature qui sont utilisés par des chercheurs à travers le monde. Dans certains cas, on va aller chercher des jeux de données qu'on va nous-mêmes commissionner, donc aller chercher des gens qui produisent ces données-là. Et puis, on va après ça les sortir de façon ouverte. Puis le troisième volet, c'est dans certains cas, on utilise des données qui sont propres à Meta. On fait des partenariats avec des équipes produits. Il y a certaines données qu'on ne peut pas partager, évidemment, à l'externe. Mais c'est vraiment les trois façons de faire.
Quand vous dites des données propres à Meta, c'est-à-dire, parce que Meta, c'est une multinationale aussi aujourd'hui, dont on sait qu'elle possède Facebook, ouais. Instagram, WhatsApp. Donc là, il y a aussi des données qui peuvent être récupérées, utilisées.
Oui, par exemple, des données qui sont partagées sur Instagram, mais en mode public. Ça serait le genre de données qu'on pourrait utiliser.
Par défaut, le compte est en public, hein, je le précise, mais...
Les comptes qui sont mis en public, où est-ce que les gens partagent des photos, du texte, des trucs comme ça, c'est le genre de données là, qu'on pourrait utiliser.
Vous travaillez dans plein de pays différents où les règles sont pas les mêmes partout. En Europe, il y a le fameux RGPD, le règlement lié aux données personnelles. D'ailleurs, Meta et Facebook ou Instagram ont parfois été condamnés, se sont vus infliger des amendes. Je crois que les dernières, d'ailleurs, là, c'est début 2023. Il y a des millions d'euros, des centaines de millions d'euros d'amendes qui ont été données par le gendarme du numérique côté irlandais. La CNIL, l'année dernière, en France, vous avez aussi infligé des amendes. Comment vous essayez de, justement, vous remettre dans le droit et dans le règlement des données personnelles en Europe?
Oui, écoutez, on a des équipes pour ça, puis on peut peut-être vous mettre en contact avec des gens dans ces équipes qui sont capables d'aller de façon un peu plus pointue sur ces questions-là. Là. Moi, je dirais tous nos protocoles de recherche, on a évidemment un avis de nos partenaires au niveau des équipes légales.
C'est l'amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée des consommateurs. Un chiffre record de 5 milliards de dollars qui s'accompagne de nouveaux garde-fous pour abolir le pouvoir absolu de Mark Zuckerberg.
On disait effectivement que 5 milliards de dollars, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Et c'est pour qui?
Donc c'est le montant astronomique qui vient d'être infligé comme amende à Facebook. Ça représente presque 10% de son chiffre d'affaires quand même. Hein. Ça fait beaucoup d'argent.
5 milliards de dollars, c'est quand même une somme considérable. Qui va être infligé à Facebook?
Commencé en avril 2018 avec le scandale Cambridge Analytica, cette entreprise britannique avait récolté les informations de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Des données utilisées comme des armes de manipulation massive.
Ils vont les payer quand même, les 5 milliards, parce qu'on parle toujours d'amende au montant astronomique, mais in fine.
Oui, alors en général, effectivement, il y a des négociations, mais regardez, Apple a quand même fini par payer.
On va vérifier si vous étiez chargé, il faut prendre les escaliers.
Non, ne vous inquiétez pas,
il n'y
a pas de
soucis.
Bonjour.
Allez-y, je vous en prie.
Bonjour, je m'appelle Bertrand Payès et je suis directeur des technologies et de l'innovation de la CNIL.
Installez-vous.
Oui. Alors, il y a plusieurs types d'amendes. Donc, sur les très grosses amendes ou les principales amendes, c'est vraiment des traitements, donc des algorithmes, qui sont vraiment déployés de manière non conforme ou illégale, soit parce qu'ils n'ont pas été assez transparents, ils n'ont pas respecté les droits ou ils ont collecté trop de données. Donc, les débats qu'on a beaucoup avec les acteurs du numérique, c'est vraiment ce débat sur qu'est-ce que j'ai le droit de collecter de données, est-ce que je dois demander le consentement des personnes ou est-ce que je le fais sans leur demander. Voilà, on n'est globalement pas d'accord avec un certain nombre d'acteurs là-dessus. Dans d'autres cas, par exemple, on a fait une amende contre une entreprise qui s'appelle Clearview AI, qui était une amende sur l'intelligence artificielle, de 20 millions d'euros l'année dernière, parce qu'elle propose un système aux forces de l'ordre de reconnaissance faciale sur la base d'images collectées sur le web. Et ça, c'est globalement pas légal en Europe. Donc, nous, on les a sanctionnés, les Italiens les ont sanctionnés. Donc là, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui a pignon sur rue aux États-Unis, qui vend ses services à beaucoup de forces de police dans le monde, mais qui n'est juste pas légal au regard du droit européen et que du coup, on va sanctionner, nous et d'autres autorités.
Il y a 5 ans, en 2017, me semble-t-il, la CNIL avait rendu un rapport qui s'appelait « Comment permettre à l'homme de garder la main sur l'intelligence artificielle ?» Est-ce qu'il faut craindre un jour que l'homme perde la main dans ce domaine-là?
C'est une question difficile. Vraiment, l'enjeu des prochaines années, c'est que pour ne pas perdre la main, c'est qu'on développe notre expertise, que ce ne soit pas laissé uniquement dans des mains commerciales ou industrielles et qu'il y ait des organismes de certification, il y ait des autorités de régulation qui soient capables de suivre le rythme. Et peut-être à un moment de dire, là, vous allez dans un terrain qui est trop risqué, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc vous pouvez expérimenter, mais pas le déployer. Et puis à l'inverse, quand on arrive dans des endroits où on connaît bien les algorithmes, on voit comment ils fonctionnent, quelles sont leurs limites, aller plus loin en termes d'automatisation. Parce qu'on est dans un monde où le contrôle humain sera en fait sur le contrôle du système lui-même et pas le contrôle de chacune de ses décisions.
La France fait partie des pays en pointe dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle et ça, elle le doit notamment à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Il y a 9 centres de recherche, 3900 chercheurs et ingénieurs partout sur le territoire français. Et il y a un centre à Paris devant lequel nous nous trouvons. Nous allons rencontrer l'un de ces chercheurs qui va nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle pourrait tout simplement bouleverser notre futur.
Je suis Benoît Sago, je suis directeur de recherche INRIA. Non, je pense que c'est une vraie révolution. L'intelligence artificielle, au sens très large, donc cette capacité que l'on donne à des machines à traiter des énormes volumes de données pour en extraire des choses qui sont utiles aux décisions humaines, c'est quelque chose qui est de nature à bouleverser de manière assez fondamentale nos sociétés, la nature de ce qu'est le travail, la nature de ce qu'est la connaissance et singulièrement la nature de l'accès à la connaissance, de l'accès au savoir, de l'accès à l'information, peut-être aussi de la production d'information, éventuellement de production de désinformation. Enfin, ça constitue une mutation vraiment très très importante qui, à mon avis, est du même ordre de grandeur que les trois précédentes révolutions industrielles. Et par conséquent, je ne pense pas que ce terme de quatrième révolution industrielle soit usurpé.
En quoi ça pourrait changer le rapport au travail des humains que nous sommes ?
Je peux éventuellement dire quelques éléments à propos de l'impact de certaines des technologies sur lesquelles on peut travailler ou que l'on connaît bien, qui sont celles, par exemple, de la génération de textes, de la production de textes. Donc vous-même, vous êtes journaliste, alors certes journaliste radio, pas journaliste de presse écrite, mais le journalisme automatique, donc écrire des textes, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les modèles de langue dont on dispose aujourd'hui, des choses comme ChatGPT, on est en capacité de produire des textes qui ressemblent à s'y méprendre, à des textes produits par des humains, avec un certain nombre de problématiques. Mais c'est vrai que peut-être le métier de journaliste va-t-il évoluer ? J'aurais presque envie de vous poser à vous la question. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont votre métier pourrait évoluer suite à ces développements technologiques, dans la mesure où la machine est capable d'écrire des textes, dès lors qu'on lui pose les bonnes questions, qu'on lui donne les informations dont on veut qu'elle les mette en forme ? Donc voilà, je pense toutefois que, en tout cas pour ce qui concerne le journalisme, les technologies sur lesquelles on travaille aujourd'hui sont peut-être plus de nature à aider le journaliste qu'à le remplacer. Mais il y a beaucoup de métiers pour lesquels toutes les technologies d'intelligence artificielle au sens large vont être des aides, permettre de faire un meilleur travail ou de le faire plus vite, ou de remplacer l'humain pour certaines des tâches qui sont les moins intéressantes ou qui ont le moins de valeur ajoutée, mais que l'humain restera incontournable pour énormément de choses.
Les deux visages de l'intelligence artificielle, c'était un reportage de Mathieu Mondoloni avec une prise de son d'Alexandra Bergel, réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Nadège Antonini. Ce reportage, qui vous sera conseillé d'ailleurs par les meilleurs algorithmes, est déjà à la réécoute sur le site de France Inter.